Au fil des pages.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Elisabeth Antebi.
Bonjour. Aujourd'hui, parmi les livres primés par l'Académie française...
Le prix de la biographie est attribué à Monsieur Maurice Levert pour les trois volumes de son Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais.
Le prix de la biographie fait partie de ce qu'on appelle les grands prix de l'Académie française. Il a été créé en 1987 et en 2005, il a été attribué à Maurice Levert, donc, qui vient de disparaître en janvier dernier, à l'âge de 70 ans. Il était l'auteur d'une délicieuse anthologie érotique, il était amoureux du rugby et de D'Artagnan, et reste pour longtemps le biographe incontournable, comme disent les Trissotins, du marquis de Sade et de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. En 1980, le titre de son premier ouvrage, « Le monde à l'envers », annonçait la couleur si l'on nous autorise cette familiarité. Car dans toute son œuvre, il décode l'envers du monde, où, pour cet amoureux du théâtre, les coulisses et les faits divers, qui sont au fond l'envers de la société, auxquels il a consacré une étude qui s'appelle « Canard sanglant », car c'est un biographe qui a de l'humour. Alors, il était directeur de recherche au CNRS, spécialiste des littératures des XVIIe et XVIIIe siècles, et il fait partie de ces chercheurs rares qui utilisent la biographie comme ce qu'on pourrait appeler une carotte de forage, pour pénétrer les secrets de toutes les couches de la société. On se rappelle évidemment son gros et célèbre ouvrage, paru chez Fayard en 1991, « Donatien Alphonse François, marquis de Sade », car Levert adore énumérer les prénoms qui pour lui sont source de réflexion. Et déjà, il y avait une analyse très fine et une infinie culture. Déjà, là, et ça reprend dans Beaumarchais, Maurice Levert étudie l'ascèse du libertinage, la difficulté d'être drôle et d'avoir de l'esprit, les malédictions du plaisir et de la recherche de l'absolu, mais aussi on le voit fasciné par le confinement, l'emprisonnement et l'exil. Et on retrouvera tous ces éléments, ou presque, dans son Beaumarchais, qui est évidemment très différent de Sade, mais où Sade revient en comparaison. Ce qui intéresse Levert plus que les mécanismes du siècle, c'est le tourbillon intérieur d'un homme qui est en quelque sorte dans l'œil du cyclone, diplomatique ou économique. Ce qui le fascine aussi, c'est l'atmosphère de fin de partie, comme dirait Beckett, qui ne laisse plus aucun espoir. Et, je le cite, de soleil noir de la mélancolie, auquel s'associe infailliblement, jusque dans la gravure de Dürer, l'obsédante image de la femme. C'est ce qu'il écrit dans Louis XV, libertin malgré lui. Et on tourne donc autour de Sade, Louis XV, les libertins, quand arrive cette somme en trois volumes sur Beaumarchais, qui a été publiée pour le 200e anniversaire de la mort de l'écrivain. Alors là, il ne s'immerge plus comme chez Sade. La biographie de Beaumarchais est moins impétueuse, mais elle est éblouissante. Parce que Levert adhère peut-être moins à tous les traits de caractère de Beaumarchais, encore que la distance est prise avec Sade, n'exagérons pas. Mais surtout, ce qui excite au sens noble du mot Levert, c'est qu'il met en scène les plaisirs et les théâtreuses. Il adore les théâtreuses, il y a consacré plusieurs livres, et Beaumarchais, au fond, est son premier écrivain de pièces de théâtre. Et il en étudie la vie avec une minutie d'horloger qui est le métier du père de notre dramaturge. Il lui consacre trois tomes. On peut être étonné que la vie de Beaumarchais, même si on parle de la vie de l'époque, nécessite trois tomes, mais il le décompose en trois, en effet, qui sont trois tournants de la société française et du monde. Le premier tome est consacré à l'irrésistible ascension d'un ambitieux, d'un homme de talent, mais aussi d'un homme de manipulation. Elle couvre la période de 1732 à 1774. Puis le deuxième tome, c'est Le citoyen d'Amérique. On verra pourquoi. C'est une découverte. 1775-1784, c'est-à-dire juste avant la Révolution. Et enfin, dans La tourmente, 1785-1799, où l'on verra que les gens de la terreur ont moins de tolérance et d'esprit que la noblesse finissante quand on se moque d'eux. Alors, le premier, c'est le plus traditionnel. Le deuxième, le plus étonnant des tomes. Et le troisième, le plus inattendu. Pour le premier, l'un des passages les plus touchants, c'est le tableau du bonheur d'une famille de la petite bourgeoisie à la fin de l'Ancien Régime. Car Beaumarchais est né au 30 de la rue Saint-Denis à Paris. Son père est donc horloger et l'intéresse aux mécanismes en tout genre et aussi aux automates, ce qui est le goût de l'époque, et à la musique, ce qui va avec. Alors, le vers écrit, et on voit là un exemple de son style et de ses rêves, on devine aisément que les premières années de Pierre-Augustin, seul garçon élevé au milieu de 5 filles, ne furent point malheureuses loin de là. Câlinées, mignotées, chouchoutées, dorlotées, bouchonnées, dûment empanachée de fierté virile, buvant à longs traits les coquetteries de ses donzelles de sœur, cherchant leurs caresses, humant leurs parfums, égrenant leurs secrets, il fit très tôt l'apprentissage de la volupté. Le friponneau grandit dans une famille, que le vers appelle au fond le nœud vital de l'existence collective, c'est un assez joli mot, mais qui est aussi la famille ferment de subversion. Et puisqu'il a appris la musique, il devient maître de harpe des filles de Louis XV. Ce même Louis XV auquel le vers a consacré un autre ouvrage, ce qui nous vaut des pages de Gastier sur les appartements royaux. Alors là, c'est le défaut de le vers, peut-on dire, parce qu'il est plein de qualités et merveillant. Parfois, il s'attarde, et alors là, on s'attarde avec lui. Et pour quand on parle d'horloger, on a tendance à regarder sa montre. Mais très vite, des phrases extraordinaires reviennent. Et donc, par exemple, le vers écrit de Beaumarchais, « Il ne cherchera pas à châtier cette noblesse arrogante, mais à la supplanter sur son propre terrain. Le ci-devant Caron a très vite compris que l'homme nouveau, plus en phase avec les réalités économiques et qu'il incarne aujourd'hui mieux que personne, ferait bientôt partie de la classe dominante. Aussi met-il en action tous les ressorts de son énergie dans un dessein unique, posséder la richesse sans laquelle il n'y a plus désormais ni rang, ni prestige, ni pouvoir. C'est une des clés du personnage. » Et au fond, nous voyons un Beaumarchais un peu arriviste, épris de réussite sociale, et où, pour lequel, comme il dit, le savoir-faire quelquefois vaut mieux que le savoir. Il faut dire que malgré la révolution, l'exil et l'adversité, à la fin de sa vie, il léguera pas mal d'argent à sa veuve et à sa fille. Donc il aura bien réussi, comme on dit. Mais pour les dames, ces premières femmes ne sont guère gâtées. C'est une sorte, c'est pas une barbe bleue, n'exagérons pas. Mais enfin, il est un peu coureur. Et heureusement, sa première épousée a le bon goût de mourir assez tôt. Et il devient veuf à 25 ans. Ce qui nous vaut une phrase à la Levers. L'ascension sociale de Beaumarchais lui imposait une inconduite qui, par bonheur, correspondait à ses goûts. À ce moment-là, le vers oppose quand même, à ce moment charnière de la France, Beaumarchais à son cher Sade. Et il dit, à la différence d'une certaine noblesse, donc Sade, qui épuise sa raison d'être dans le boudoir des filles, il n'y abandonne, Beaumarchais, qu'une part infime de lui-même. À la nostalgie féodale qui entraîne un marquis de Sade à toutes les perversions, il oppose la vision lucide et hardie de l'aventurier des temps nouveaux. Alors on s'attarde dans nos sombres aventures espagnoles qui au moins ont le mérite d'inspirer à Beaumarchais le comte Almaviva et on découvre que Beaumarchais finalement est moins intéressé par la plume que par la politique. Et le vers le souligne en disant qu'on ne s'y trompe donc pas, Beaumarchais n'est pas un écrivain qui fait de la politique mais un politique qui s'amuse à écrire. Il faut dire qu'il a mieux réussi en écriture qu'en politique. Pourtant, au début avec Eugénie, sa première pièce. Ce n'est pas un grand succès. Et puis, il mûrit, et à 38 ans, le voilà veuf à nouveau, après un pas très bon mariage. Et il connaît pas mal de deuils, il perd sa fille nouveau-née, son fils, une sœur, il connaît des procès en série, des attaques, il connaît même la prison. Et peut-être que ces épreuves, finalement, créent notre beau marché à nous, puisqu'arrive le barbier de Séville. Et là, il y a un moment de vaudeville versaillais, c'est-à-dire les répétitions du barbier de Séville sont interrompues parce que Beaumarchais est soutenu par la dauphine Marie-Antoinette et vilipendé, je ne sais pas pourquoi, par Madame du Barry, la maîtresse du roi, qui a gain de cause dans un premier temps. Et donc Beaumarchais, furieux, qui a tout à fait le sens des relations publiques, fait vendre par des camelots à Libelle contre ses persécuteurs, qui est tellement bien troussé qu'en deux jours, il s'en vend 6000 exemplaires. C'est donc finalement un bon lancement pour une pièce qui verra le jour un peu plus tard. Alors, il ne cesse d'envoyer d'ailleurs ses pièces, ses écrits à Voltaire, qui n'est pas très très gagné à la cause de Beaumarchais au départ, mais qui finit par se laisser séduire et qui fait sa réputation, au fond, en Europe. Et à ce moment-là, Beaumarchais est devenu espion. Il est l'agent du roi Louis XV et il vogue pour l'Angleterre à des missions définies, mais enfin peu connues. Alors voilà, ainsi se termine le premier tome. Quant au deuxième tome, il s'ouvre sur un passage assez invraisemblable où apparaît le chevalier Déon. Ce chevalier Déon, qui est sans doute un homme, puisque d'après le vers, rien ne prouve que c'était une femme. Et ce chevalier Déon qui se déguise en dame pour ses missions. Alors, est-ce par goût ou pas, le vers ne tranche pas. Il dit qu'il n'a preuve de rien du tout. Mais enfin, le chevalier Déon, c'est un drôle de personnage. Et donc, on a une description de l'émigration française en Angleterre. Et espionnage et intrigue deviennent les mamelles de Beaumarchais. Alors, il se retrouve en Allemagne, à Vienne, sous le nom de Monsieur de Ronac. Et au retour, il fait la connaissance du chevalier Déon. Alors, pour le vers qui attache une grande importance au prénom qu'il égrène dans ses titres, le diable est déjà dans le prénom, puisque notre cher chevalier Déon s'appelle Charles Geneviève Louis Déon. Il était prédestiné à être bizarre. Bien. Alors, le premier entretien où le chevalier se présente en chevalière, c'est-à-dire en femme, avec Beaumarchais, a lieu le 20 avril 1775. Et il est assez drôle. Alors, il se rencontre parce que Déon veut de l'argent, il se passe des papiers d'espionnage, enfin, peu importe la raison. Et voilà-t-il pas que Beaumarchais tombe dans le panneau. Et comme dit le vers, le railleur le plus redouté de son temps prend un capitaine de dragons de 47 ans pour une fille d'Ève. Alors, toute l'histoire est à découvrir car elle est assez savoureuse. Toujours est-il que Beaumarchais récupère les papiers Déon, que l'histoire se finit mal entre eux. Il en arrive à se passionner pour la cause des insurgés américains. Alors, Louis XVI et Vergennes décident de soutenir les insurgés à partir de l'Angleterre et lui-même ne mettra jamais les pieds dans cette Amérique dont il entretient une image idéaliste et utopique. En tous les cas, de toute façon, il remporte un grand triomphe en 1784, non pas en politique, mais avec le mariage de Figaro. Et c'est sur ce triomphe que se clôt le deuxième tome de la biographie, qui est au fond plus consacré à la politique et à la diplomatie qu'à l'écriture, curieusement, tout en retraçant quand même la fresque des théâtres de l'époque. Le troisième tome, lui, s'ouvre sur les conséquences financières et sociales du triomphe, sur l'action humanitaire de Beaumarchais, qui a déjà fondé la Société des auteurs et qui maintenant verse de l'argent à l'Institut de bienfaisance maternelle et aux mères nourrices. Parce qu'il faut dire que ce Beaumarchais insoupçonné apparaît chez le vers, qui est très généreux. Et au début du livre, il croise le chemin de Mirabeau, qui vient le voir, qui est pétri de dettes, perclus de dettes. dont le Verdi, Mirabeau n'était encore connu que par ses amours, ses procès, ses dettes et son essai sur le despotisme. Et au fond, Mirabeau vient taper Beaumarchais, qui a la réputation d'être assez généreux. Alors, à la même époque, Beaumarchais, c'est intéressant pour la suite de l'histoire, investit dans la Compagnie des Eaux que viennent de fonder les frères Perrier, car, comme dit Levert, l'ancien horloger Caron a toujours eu un faible pour les nouvelles technologies. Ce qui l'amène, bizarrement, à financer une machine à vapeur grâce à laquelle on refoule l'eau de la Seine pour alimenter en eau les quartiers, ce qui est déjà prémonitoire. C'est un drôle de bonhomme, ce Beaumarchais. Mirabeau se venge de ce que Beaumarchais ne lui ait pas donné d'argent en rédigeant une brochure torpille contre la Compagnie des Eaux et donc contre les intérêts de Beaumarchais. S'ensuit un duel de plumes. Beaumarchais traite les écrits de l'adversaire des Mirabelles du comte de Mirabeau. L'autre répond par un tombereau d'injures et d'accusations. C'est l'envers du beau linge, si je puis dire, chez Levert toujours. Et alors donc, on a toute une face, homme d'affaires et d'intrigue de Beaumarchais, qui est très intéressante à explorer. En revanche, les lignes sur la rencontre artistique entre Mozart et Beaumarchais sont bien belles. Ça se passe à l'occasion, évidemment, du mariage de Figaro, qui est donné à l'Opéra de Paris en pleine Révolution. Donc l'Opéra de Paris, c'est-à-dire que c'est le mariage de Mozart, hein, avec la musique de Mozart. Alors, il est donné à l'Opéra de Paris en pleine Révolution et même en pleine Terreur en 1793. Et elle finit, au fond, sur un rendez-vous manqué assez incroyable parce que, pour Beaumarchais, la musique de Mozart, bah, c'est de la zizique comme les autres. Et il ne reconnaît pas tout simplement le talent de Mozart, ce qui est assez curieux, mais c'est ainsi, surtout pour un amateur de musique. Alors, un autre passage incroyable du tome 3, c'est l'histoire de la prise de la Bastille sous les fenêtres de Beaumarchais, puisqu'il habite juste en face, et de son courage quand même, parce qu'il est furieux de voir tous les documents de la Bastille jetés comme ça à l'air libre. Il sauve certains réfugiés dans son jardin, et puis il sauve les archives. Et peu à peu, raconte Levert, prisonnier de sa propre nature, que domine l'égotisme et l'ambition personnelle, évoluant dans le cercle étroit de la haute finance qui le tient à l'écart des difficultés de chacun, jouissant d'une fortune qui l'isole un peu plus encore de ses semblables, Beaumarchais n'a pas vu le monde évoluer autour de lui. Il n'a pas pris conscience des profondes mutations qui se sont opérées dans les esprits au cours des dernières années. Il vit toujours selon l'ancien système dont il a conservé les mœurs, les références, le langage, et jusqu'au tic de la pensée. Maurice Levert voit, et on peut ne pas être tout à fait d'accord, dans l'hommage rendu à Louis XVI et à la noblesse, dans les rappels imprudents qu'il fait à Lafayette de ses dettes et de ses légèretés, dans ses fureurs contre les brigands, dit-il, qui brûlent les châteaux, ou contre la canaille plumitive, ça nous rappelle quelque chose d'assez récent, une soudaine anesthésie de conscience, un démon du paradoxe. On peut penser, au contraire, qu'il s'agit d'une honnêteté profonde, d'une loyauté envers soi-même et d'une vraie fureur contre la terreur, les brigands qui brûlent les châteaux et la canaille plumitive des lâches qui se rallient évidemment toujours à la terreur et à la pensée dominante. Il faut dire que là, Levert pointe le museau d'un certain préjugé favorable à son cher Sade, adepte de la Révolution, et pour lequel, dit Levert, le silence des lois laisse enfin parler la seule vérité de l'homme, à savoir son infini pouvoir de négation. Il est permis de préférer les fureurs de Beaumarchais. En tous les cas, après des péripéties multiples, Beaumarchais publie au cours de la terrible année 1793, en pleine terreur, un plaidoyer en 6 époques d'une grande témérité. C'est Figaro à l'envers, mais là, il risque sa tête, il ne faut pas l'oublier, avec une phrase magnifique. Une nation n'est vraiment libre que lorsqu'on obéit qu'aux lois. On peut rappeler qu'un certain Lénine, dans Que faire, disait « La liberté, c'est la contrainte ». Avait-il lu Beaumarchais ? On n'en sait rien. Alors, il faut lire les pages finales de la biographie pour admirer à la fois Beaumarchais et Maurice Levers, car Beaumarchais est exilé en Suisse, en Angleterre, à Francfort, à La Haye, où il veut négocier d'ailleurs tout seul une paix pour l'Europe, tandis que sa femme, sa sœur et sa fille sont emprisonnés, et heureusement en réchappent. Alors, il revient en juillet 96. La famille a heureusement échappé au massacre, mais la ruine est presque totale. Il meurt en ayant récupéré de l'argent en 1799 et fait graver sur sa tombe « Tandem Quiesco, enfin je me repose ».